Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, nous voilà prêts pour un magazine, enfin pas pour un magazine, soyons modestes, pour un agenda de pré-rentrée, un petit peu plus étoffé que la semaine dernière. Alors voilà, nous sommes le 21 août et ça commence ce soir à la CAFPO. Vous avez un concert qui porte le nom délicieux de Mélodiane Translation ou Translation, comme vous voudrez. C'est un concert présenté par le Grand Orphéon, qui comprend de la flûte, de l'accordéon, du tuba et au vocal un contre-ténor. Alors ça promet et ça va durer. Ça va durer jusqu'au 24 août compris. Et c'est à 20h30. Alors, à 20h30, donc ce soir et demain et après-demain et encore le 24, à la CAFPO, Mélodiane Translation. Et puis, en même temps, vous en avez entendu parler sur toutes les ondes, commence aujourd'hui et jusqu'au 23, jusqu'à après-demain, à Irun et à Hendaye, le contre-sommet organisé par ATTAC, entre autres, le contre-sommet, donc, du Pays Basque contre le sommet officiel et combattu de Biarritz. Alors, contre-sommet d'ATTAC et autres organisations militantes que nous aimons, contre-sommet, donc, aujourd'hui, demain et après-demain, au centre-ville d'Irun et de Hendaye. Et puis, demain, au parc de la Rainerie, vous aurez le trio Le Bois Bleu, qui fait un petit concert. Ça se situe à l'impasse Abbé Salva, hein, dans le parc de la Rainerie, voilà. Métro Rainerie, bien entendu. Alors, c'est un petit concert gratuit, et vous pouvez y aller nombreux. Le trio, donc, du Bois Bleu. Et puis, le 24 août. Alors, où que vous soyez, vous pouvez joindre ces manifestations. 24 août, c'est le jour du Super Emmaüs. Alors, Emmaüs à la Barthe-sur-Lèze, bien sûr. Emmaüs d'Escalquins et Emmaüs de Saint-Jory, hein, rien que. Donc, vous aurez une super braderie. De 14 à 18 heures, de 14 à 18 heures à la fois à Saint-Jory et à la Barthe. Et puis à Escalquins, ça sera toute la journée, donc à partir de 9 heures, de 9 heures à 11h30 et de 14 à 18 heures, donc ce 24 août. Et puis en plus, à la Barthe, il y aura l'après-midi un grand marché bio. Et il manquait plus que ça à la Barque. Hein. Déjà qu'ils ont une super centrale solaire qui sert de parking, et qui est trop géniale. Il leur manquait le grand marché bio. Et bien ça y est, nous voilà avec un marché bio à la Barque. Et puis en même temps, ce 24 août, vous aurez la manif, bien entendu, la manif altermondialiste au Pays Basque. Alors, le dimanche 25 août, bien entendu, il y aura une occupation pacifique au Pays Basque. Occupation pacifique de toutes les places du Pays Basque. Alors ça va donner, parce que quand on connaît la dynamique, les chorégraphies du Pays Basque, etc., on peut s'attendre à du beau spectacle et beaucoup de joie de vivre. Alors attention. Attention parce que, évidemment, ces réjouissances contestataires, ça ne plaît pas énormément au pouvoir. Alors comme le pouvoir, il a toutes les ficelles, les grosses et les autres, eh ben, risque de fermeture des gares SNCF au Pays Basque. Eh ben, alors allez-y en trottinette, hein, voilà. Fermeture possible des gares au Pays Basque le 24, le 25 et le 26 août. Bon, mais enfin, le covoiturage, il y a longtemps qu'on pratique, hein, donc c'est pas irrémédiable. On revient donc au dimanche 25. Ben, il y a toujours, bien entendu, les dimanches, la Garonne expose à la Dorade, bien sûr. Et il y a toujours aussi, bien entendu, la bibliothèque féministe au Chat Noir. Voilà, ça c'est pour Toulouse. Et puis un petit peu plus loin que Toulouse, le 28 août, vous avez le Café Paysan qui aura lieu à un endroit, un lieu dit qui s'appelle la Burse. Et c'est au village de Terre Basse, 31 420. Alors, c'est organisé par l'ADAR, hein, l'Association d'agriculteurs, et il y aura un repas partagé. Alors, ça commence à 18h, la réunion, les discussions au Café Paysan, et puis après, eh ben, on casse la croûte ensemble. Voilà. Il doit y avoir, le 30 août, il me semble, quelque part, ce que j'appelle un festimeuf. Oui, un festival féministe. Mais je ne sais pas où. Alors, je vous compléterai l'info donc sur la page du podcast, promis juré. Et puis, je vais reprendre mon souffle avec une petite pause. Et après, on abordera le 1er septembre qui est riche de promesses.
À la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prospère sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc?
Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait popo? Voilà pépé, voilà pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon.
La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prospère qui se désole.
À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger.
Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau.
Le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos.
Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus. Une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable.
Dépêchez-vous de la dépêcher, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger.
Il a faim, il a soif, il veut manger.
Mais voici Prospère qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus.
Et pourquoi donc je dépêcherai une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part.
Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare.
Et se précipitant sur le père, elle le transperce le père en part.
Dit le cousin à Gaston,
ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà,
et voilà,
voilà Prospère qui prépare les faire-part. La mère qui prend le deuil dans son pauvre mari,
et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit.
Soudain, elle s'écrie, et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant, les autres vont me pourchasser en mode que dire, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille.
Alors éclatons d'un rire inquiétant.
Elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant,
madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez,
la baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la,
dans une quinzaine
Ça, c'était donc la chanson antimilitariste du jour. Et puis, on arrive donc au 1er septembre. Alors, ce 1er septembre, vous avez, près d'Arnaud Bernard, à la place des Tiercerettes. Et puis, si jamais il pleut, eh ben, on peut se replier aux 3 rues Escoussières. Vous avez la conversation socratique, organisée par le Carrefour culturel d'Arnaud Bernard. Alors, cette semaine, ça portera sur la poésie. Que dit la poésie aujourd'hui? En Syrie, en Irak, à Gaza, au Yémen, au Soudan, en Algérie. Et ça sera organisé par Saïd Benjelloun. Donc, 1er septembre, je n'ai pas l'heure. J'espère vous retrouver ça d'ici le podcast. 1er septembre, on a le temps de se retourner encore. Hein? Bon. Je vous le mettrai donc sur la page de l'émission. Et puis, la Ligue des droits humains nous annonce pour le 1er septembre la fête de la LDH qui s'appelle Toulouse en liberté, la fête annuelle. Alors, c'est donc la 9e édition. Dimanche donc 1er septembre, au square dit Charles de Gaulle et que moi j'appelle le square du donjon, de 10 à 18 heures. Alors la LDH, auparavant Ligue des droits de l'homme et qu'on appelle maintenant Ligue des droits humains, a été créée en 1898 avec l'affaire Dreyfus. Elle a puisé sa force dans l'engagement citoyen. Elle a inscrit ses actions dans la durée et a diversifié ses thèmes d'intervention. Elle reste attachée à défendre l'effectivité des droits et à promouvoir les libertés qui conditionnent l'exercice de la citoyenneté, bien sûr. Elle promeut les droits civiques, civils et politiques, et autant que les droits économiques, sociaux et culturels. Toulouse en liberté 2019. La démocratie, c'est tous les jours et avec tout le monde. Alors donc, pour la 9e année consécutive, la Ligue des droits humains va à la rencontre des Toulousains et Toulousaines dans le cadre de sa fête annuelle. Comme chaque année, il s'agira d'un moment de citoyenneté et de convivialité qui permettra de mieux connaître cette association vieille de plus d'un siècle. Association qui promeut et défend les droits de l'homme et de la femme. Elle n'a pas chômé ces derniers mois. Depuis ces dernières années, la démocratie n'a cessé de se transformer. Et les évolutions attendues cèdent le pas à la régression. La politique du gouvernement, offensive, notamment sur les champs de l'immigration, des services publics, de la justice, de l'université, etc., creuse le déficit croissant d'humanité de la société et met en péril notre démocratie. Alors, face à ces politiques qui s'affranchissent des prises de position émanant de la société civile et minent le vivre ensemble démocratique, les militants et militantes toulousains, toulousaines de la Ligue des droits humains et ses partenaires sont à l'action. Toulouse en liberté 2019 accueillera Arié Halimi, l'avocat des victimes, l'avocat des grandes causes, avocat des victimes contre les violences policières. Il est membre du Bureau national de la Ligue des droits humains, bien entendu. Arié Halimi, que nous retrouverons avec bonheur. La Ligue des droits humains pilote l'Observatoire des pratiques policières que nous connaissons bien à Canal, dans le cadre de manifestations. D'autres observatoires citoyens ont abouti à la publication de rapports. L'observatoire de l'accueil en préfecture. L'observatoire des comparutions immédiates. L'observatoire sur les conditions ayant conduit à la mort de Rémi Fraisse. La Ligue des droits humains mène une campagne sur le harcèlement sexiste dans les transports et les violences faites aux femmes. La Ligue des droits humains intervient au sein du groupe CQFD, Citoyenneté, Quartier, Fraternité et Droit pour l'égalité. Afin de lutter contre les discriminations et pour l'accès aux droits des habitants et habitantes des quartiers populaires. La Ligue des droits humains intervient au sein des États généraux des migrations, en faveur des droits des migrants et des réfugiés, et contre le refoulement des étrangers aux frontières, au péril de leur vie, et contre l'enfermement des mineurs, notamment dans les centres de rétention. Elle se mobilise contre la loi Asile et Immigration. La Ligue des droits humains dénonce les situations indignes d'enfants scolarisés dans nos écoles toulousaines qui dorment à la rue ou dans des conditions d'extrême précarité avec leurs familles. Et elle défend le droit pour toutes et tous à avoir un toit et à vivre dans des conditions dignes. La Ligue des droits humains soutient les actions pour les personnes privées de papier. La Ligue des droits humains agit pour une justice respectueuse des droits et de la dignité des personnes et soutient des peines alternatives et les initiatives autres que l'enfermement face à la surpopulation des prisons et aux conditions carcérales indignes. La Ligue des droits humains en résidence organise des rencontres en milieu scolaire et organise les écrits pour la fraternité afin de sensibiliser les enfants et les jeunes aux valeurs de la République. La liste est longue. Toulouse en liberté, c'est l'occasion de découvrir ses actions et ses combats qui rappellent la primauté du politique et les droits des citoyens et citoyennes. L'émergence de nouveaux mouvements de société, nous toutes par exemple, les luttes environnementales, les gilets jaunes, etc., échappant au cadre traditionnel et initiés par des citoyens et citoyennes, interpellent aussi les stratégies militantes. Toulouse en liberté est ainsi l'occasion de découvrir dans le détail ce que réalise la Ligue des droits humains et ses partenaires dans notre ville. C'est l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les hommes et les femmes qui s'engagent dans ces pratiques citoyennes. N'hésitez pas, parce que la liberté d'expression de l'opinion publique est centrale et contribue à faire vivre la démocratie. Joignez-vous donc à cette journée, venez débattre, construisons ensemble un avenir où la citoyenneté prend tout son sens. Pour l'universalité et l'indivisibilité de nos droits. Encore un petit coup de frère Jacques, si vous voulez bien.
Un taxi s'arrête, des êtres humains descendent. L'un d'eux pèle le chauffeur.
Le chauffeur s'en va avec son taxi.
Un autre humain l'appelle, donne une adresse et monte. Le taxi repart 25 rue de Châteaudun. Le chauffeur a l'adresse dans la mémoire. Il la garde juste le temps qu'il faut. Mais c'est tout de même un drôle de boulot. Et quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le soir,
des milliers et des milliers d'adresses
arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire. Il a la tête comme un bottin, comme un plan du métropolitain. Alors il prend sa tête entre ses mains. Alors il prend sa tête entre ses mains. Et il se plaint tout doucement.
palais, car Saint-Lazare,
grand palais, car Saint-Lazare, grand palais, car Saint-Lazare, grand palais, Saint-Lazare, grand palais, car Saint-Lazare.
Rue du dernier des Mohicans, place du colonel Rochonneau, avenue du gros barbu, du gros barbu,
boulevard des Trois Idiots.
Taxi, 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 taxi,
taxi pour la sortie, taxi pour le Grand Prix, taxi pour le passe-fesse, taxi pour la comtesse, taxi pour le cocktail, taxi pour les affaires, taxi pour la grande guerre, taxi, 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 taxi pour le cimetière.
Je ne sais pas si les recruteurs d'Uber ont mis cette chanson dans leur programme. J'en doute un petit peu. Alors à propos de programme, ben voyons le programme de la journée de Toulouse en liberté, ce 1er septembre. Alors ça démarre à 10h, donc au square du donjon. À 10h, ouverture donc de la 9e édition de Toulouse en liberté. À 11h, Première animation, discussion, migrants et réfugiés. Sur le thème des principes républicains, hélas bafoués comme on sait. À midi, on retrouve Samba Résille, batucada, percussion brésilienne, qui nous font un beau défilé comme ils savent faire. Cette année encore, les percussionnistes s'associent à la Ligue des droits humains. De la culture brésilienne aux influences d'Europe du Sud, des Antilles au Maghreb, Samba Résille offre toute sa joyeuse énergie dans un unique et mélodique but, faire bouger les petits comme les grands. On ne peut pas résister au rythme des sambas. Et à 13h30, redéfilé de Samba Résille et mise en place du mouvement graphique qui est une animation pour les enfants. Parce que depuis 2002, le mouvement graphique réalise dans la région des fresques graphes au cours d'ateliers et de stages de découverte au graffiti. La technique de la fresque graphe est apprise aux participants qui réalisent ensemble une fresque avec l'aide de l'intervenant graffeur. Un mur de graphe est installé pour partager la peinture urbaine avec les artistes de rue. C'est l'occasion ou jamais d'essayer, d'imaginer, de créer, d'échanger, de rencontrer des gens formidables et de faire marcher son imagination. À 14h, on fera la liste et on travaillera sur nos droits à manifester. Et on verra quelles sont les pratiques policières auxquelles il faut s'attendre et contre lesquelles il faut être prêt. À 15h, fraternité et droit pour l'égalité. Contrôle au faciès par Solidarité Jeunesse Internationale. À 16h, les droits dans les prisons et lieux de privation de liberté. Alors, on annonce la visite d'une cellule toute la journée. Alors, comme je ne connais pas de lieu d'enfermement dans le quartier de la rue d'Alsace, je pense qu'il s'agit d'une vidéo. Toute la journée, il y aura, sur les lieux, il y aura une buvette. Et puis, on peut se demander qui va organiser tout ça. Eh bien entendu, les partenaires de la Ligue des droits de l'homme, habituels, quoi. Amnesty, la CIMAD, le Cercle des voisins, le planning familial, la librairie de la Renaissance, le réseau Éducation sans frontières. Tous ces gens participent depuis plusieurs années à Toulouse en liberté, dans les quartiers toulousains, où tout le monde se retrouve pour partager ses valeurs. Contact presse possible à la Ligue des droits humains, bien entendu, à la section de Toulouse 2 rue Saint-Jean, et par mail ldh.toulouse@gmail.com. Voilà. Je répète donc. La presse peut s'adresser à la LDH section de Toulouse 2 rue Saint-Jean et par mail à ldh.toulouse@gmail.com. Et voilà Diaspora.
On est à 4 sur un petit titre, 4 sur un album.
On a pris de la bouteille sans éviter les vapeurs d'alcool.
On est à 4 sur un beat, 4 comme les Dalton.
Un esprit créatif sans être ingénieux comme Malcolm.
On est à 4 sur un petit titre, 4 sur un album.
On a pris de la bouteille sans esquiver les vapeurs d'alcool.
On est à 4 sur un beat, 4 comme les Dalton.
Un esprit créatif sans être ingénieux comme Malcolm.
Miroir, miroir, ce soir j'ai besoin de toi. Viens donc que l'on s'installe, qu'on laisse ouvrir les voiles pour couvrir d'espoir tout ce qui ne va pas. Ou je sais que ça fait beaucoup, mais c'est pas grave, mon rap, mon arme, mes rimes, mon arme. Et je trouve trop de gens désarmés pour dire que la révolution est prête. Notre évolution s'est faite lentement, en deux ans, sûrement, dans les temps. Au mac, tout s'enflamme quand tous les sens s'assemblent. Et voici le résultat.
La jazz pour rap, c'est pas du gangsta rap. On fait pas de la musique pour faire du fric, c'est juste notre rente à place. Pas là pour prendre ta place. Tu verras pas nos clips avec ma clique, pourtant des fausses calages.
Autant le dire,
fera tout pour la rime en restant authentique. Entendu, faut préférer le fond et taper fort dans le rythme. La vie, c'est un miroir, ce qu'on décrit, c'est ta mémoire. En prenant du galon, on a mis un cactus dans le buvard.
On est à 4 sur un titit, 4 sur un album.
On a pris de la bouteille sans éviter les vapeurs d'alcool.
On est à 4 sur un beat, 4 comme les Dalton.
Un esprit créatif sans être ingénieux comme Malcolm.
On est à 4 sur un titit, 4 sur un album.
On a pris de la bouteille sans esquiver les vapeurs d'alcool.
On est à 4 sur un beat, 4 comme les Dalton.
Un esprit créatif sans être ingénieux comme Malcolm.
Réunis pour te fournir un putain d'album. Get, on a perfectionné le que truc, on a fait le job. On marche ensemble, nous sommes soudés comme les Dalton. Les jeux sont faits, on mise tapis, balance-nous le flow. On élève le niveau, man le mic, on le calcine. Assez de tous ces MC qui font pitch et nous fatiguent. On a vu l'instant de maladeur, bébé corps c'est l'usine. Te souhaite une bonne écoute, vas-y, Bokra, reprends la suite.
Réveil bouffi après un mauvais songe.
Cauchemar.
Aigreur et wifi pour les mauvais sons. Y'a bien longtemps que c'est dépassé de vouloir sauver ce monde. Recherche bonheur et surtout budget qui lui correspond. L'impression d'être jet lag sans voyager. Des gens qui partent et planent, j'crois que j'en croise assez. J'ai rangé mes sentiments dans un tiroir. J'apprends à sourire gentiment devant le miroir.
On est à 4 sur un titit, 4 sur un album.
On a pris de la bouteille sans éviter les vapeurs d'alcool.
On est à 4 sur un beat, 4 comme les Dalton.
Un esprit créatif sans être ingénieux comme Malcolm.
On est à 4 sur un titit, 4 sur un album.
On a pris de la bouteille sans esquiver les vapeurs d'alcool.
On est à 4 sur un beat, 4 comme les Dalton.
Un esprit créatif sans être ingénieux comme Malcolm.
C'était donc le groupe Diaspora, le groupe toulousain, que nous recevrons pour un super chroniquart de rentrée. La date n'est pas encore fixée, mais ça ne saurait tarder. Donc ça devrait être au début d'octobre. Je vous préciserai ça. Et maintenant, toujours dans le cadre de l'agenda, l'agenda dont tout le monde parle en ce moment... Eh bien, c'est l'agenda de Biarritz. Alors on va voir un petit peu, on va imaginer ce qui pourra se passer à Biarritz. Bon, Biarritz, c'est une ville hyper touristique, très très chère et équipée pour des rendez-vous au sommet des pouvoirs. Et là, je crains que ça ne soit un sommet et un summum de fric et de mépris, étant donné les circonstances. Prétexte, apparence et réalité. 7 pays alliés avec les USA, France, Allemagne, Canada, Japon, Italie, Grande-Bretagne, vont se réunir. Mais pour quoi faire? Du 24 au 26 août, bah théoriquement, ça va être pour lutter contre toutes les plaies qui font souffrir le monde, bien sûr. Les inégalités, la pauvreté, la faim dans le monde, les grandes pandémies, les migrations. Et pour organiser la défense. Pour cela, les sept organisent ou protègent les paradis fiscaux afin d'éviter à leurs grandes entreprises de payer les impôts qui, eux, permettraient de lutter contre les inégalités fiscales en allégeant les charges des entreprises véritablement créatrices d'emplois et non pas les GAFA et autres multinationales qui licencient à tour de bras au nom du progrès, de la libre concurrence et des sacro-saints dividendes exigés par leurs actionnaires. On se rappelle que 8 personnes dans le monde possèdent autant comme patrimoine que la moitié la plus pauvre du reste de l'humanité, c'est-à-dire quand même 3 milliards 600 millions d'habitants. 8 personnes possèdent autant que 3 milliards 600 millions d'habitants sur la planète. 8. Les impôts que ne payent pas les grandes entreprises permettraient de lutter contre la pauvreté en réduisant ou en supprimant la TVA sur les produits de base, indispensables. Médicaments, eau, alimentation courante, transport, culture. Tout ça, de tout ça, on a besoin, c'est vital. Eh ben non, on a des TVA qui montent jusqu'à 20%. Sur la culture, oui. Ça permettrait aussi de pérenniser, de généraliser, de développer les services publics plutôt que de les fermer et de les privatiser. Avec les sommes récupérées sur la fraude fiscale, on pourrait renationaliser les transports, l'énergie, les services des eaux, l'éducation, les logements. Biarritz 2019 ne sera donc qu'une coûteuse et hypocrite réunion mondaine, puisque la seule préoccupation des sept, c'est de protéger les privilèges des capitalistes, alors qu'une véritable lutte contre les fraudeurs et autres escrocs du libéralisme permettrait de répondre à la plupart des problèmes énumérés dans l'ordre du jour de la réunion. Le G7 prétend lutter contre le terrorisme. Mais il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui luttent contre les racines du terrorisme, qui sont souvent, justement, les inégalités, la pauvreté, la faim, les dictatures, aux ordres de l'Occident, et de Poutine ou de la Chine. Les gouvernants du G7, et d'ailleurs, et surtout la France, qui brandit toujours sans honte sa devise, ô combien trahie par ses juges et sa police. Les gouvernants, donc, ne connaissent que la répression et ses armes de guerre pour lutter contre les protestations pacifiques des peuples en détresse. Le ministère de l'Intérieur français, Christophe Castaner, et pas du tout la ministre des Armées. Je répète donc, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur français, a récemment commandé, comme vous l'avez vu dans la presse, des provisions effarantes par centaines de milliers de balles de fusil d'assaut et de LBD-40 afin de pouvoir mieux maintenir l'ordre public. Et, comme on dit, garder la paix, selon la dénomination de la fonction assurée par les dix gardiens de la paix. Ça nous annonce combien de Rémi Fraisse et de Steve. Le G7 prétend encore lutter contre le dérèglement climatique. Alors, si on escompte un succès équivalent à celui de la COP21, française elle aussi, qui a tant fait rêver, pour finalement se retrouver vigoureusement piétinée au nom de la croissance et des bénéfices capitalistes, on n'est pas sorti du CO2. Le GIEC et tous les scientifiques de la planète reconnaissent pourtant la responsabilité des activités humaines industrielles dans l'état alarmant de notre Terre. Et notre présidente de région, Madame Delga, pousse à vendre notre Occitanie à Saint-Tourisme, qui est responsable de plus de 8% des gaz à effet de serre. Gageons qu'elle viendra nettoyer les sentiers de l'Ariège et de l'Aveyron, dont les torrents n'abriteront plus très longtemps leurs saumons sauteurs. Et on fore et on creuse, et on sonde et on dynamite, toujours plus. Comme disait Thomas Sankara, tant que l'on choisira de forer des puits de pétrole à des milliers de mètres de profondeur, on privera l'Afrique des puits d'eau potable de quelques dizaines de mètres qui permettraient de survivre. On s'occupera peut-être de lutter contre le chômage à Biarritz. Peut-être un de ses participants sortira de son chapeau une solution plus efficace que celle de Macron, qui radie à tout beurzing les demandeurs d'emploi en formation, les formations qui sont le plus souvent des formations bidons d'ailleurs, et les chômeurs non indemnisés. Son arme la plus spectaculaire étant la mise en concurrence de la souffrance au travail avec la souffrance du dénuement. Par élimination méthodique de tous les modes de vie qui ne reposent pas sur des pratiques marchandes. C'est pas une blague, le délit de solidarité a bel et bien été inventé. Par contre, les chantiers d'isolation des habitations, des administrations, des entreprises se font attendre, faute de participation des pouvoirs publics. Le G7, bien sûr, va s'occuper de lutter pour le respect des droits humains sur toute la planète. Et Macron a fait de brillants effets de manche face à Poutine à ce sujet. Ça fait très chic pour promouvoir la réunion de Biarritz. Mais ça ne sauvera pas un réfugié de plus en Méditerranée. Et Poutine a bien renvoyé la balle à son hôte. Question maintien de l'ordre et gilet jaune. Nous ne sommes pas, bien sûr, en Tchétchénie. Mais la route est fléchée. Salvini a peut-être une histoire, une bonne idée à nous proposer. Eh bien, on va continuer Diaspora, voilà.
La diaspora, diaspora, plomb, le roi. Avec ma plume, je crache du plomb, avec l'actu, je les pète. C'est le paradoxe d'un homme, bon, mes fiers à pu. C'est par le sort du club fatigué, par les forces de l'ordre habillé. C'est par des sons étranges, bien bu. T'es les marchands du temple, et c'est pour ça que je rap, frappe et tape à l'œil. J'attrape un tas de valeurs, et puis construis mon rap. Endurance stable, nos visions stagnent sur beaucoup trop de facteurs. Générateur de vie ratée, mon rap, récit d'acteur, de films d'auteur, pas de série B. Viens le vérifier pour me purifier, j'écris quand j'ai du temps, et parce qu'un tas de pensées n'attendent qu'à sortir de mes tempes. Oui, pour me lâcher, je n'ai qu'à demander carte blanche au rap. Mais plus le temps passe et plus sans pluie et moi se creuse l'écart. J'ai dû C4 planquer dans le cœur. Que le vide s'écarte car je vais le remplir, c'est clair. Après trois verres, je suis rond comme Jerry Yos. Je transgresse les règles si je laisse faire mes rêves. Tant pis, ouais, j'ose. Magicien d'ose, disciple et maître.
Port d'armes, roue elliptique, groove électrique. On gronde en équipe, mes rimes de merde sont diasporatiques. Port d'armes, lourde est ma thune, lourde est ma plume. Quand elle se calcule, au gramme de plomb, les MC Jacques plus. Port d'armes, roue elliptique, groove électrique. On gronde en équipe, mes rimes de merde
son jazz pratique. Port d'armes, lourde est ma thune, lourde est ma plume. Quand elle se calcule, au gramme de plomb, les MC Jacques,
je fais la prod, ce que le CRS est au 68 art. J'exerce un droit de cuissage, attise pas la rime sale des maquisards. Les 4 bizarres, c'est classique, style magique. T'imagines, quand la mine s'agite, même clavier tactile sache que ça gicle. Vous ai-je parlé de ce que je pensais, de ce que pensaient les puristes? Je fusionnais trap et 90s, des vrais, j'en fais des curistes. Ton beatmaker d'un ancien temps qui sait que sans plaît les choristes. Tu crois rapper l'âge d'or du rap, tu fais que sembler nécrophile. Je dévore l'instru sans que t'en déplore la perte. Je me drogue avec et je crache du plomb, faut que ça te perfore la tête. Donner des leçons serait lamentable. Ça fait 12 ans que j'écris mon rap à 12 ans d'âge mental. Le rap je m'en tape, trop perso c'est pas bancable. Je fais de l'art bancal, tant pis si c'est pas rentable. Nous c'est tout pour le rendu, on s'en branle du rendement. Lyrical gang bang, la prod tourne, on donne ça grandement.
Port d'armes, roue elliptique, groove électrique. On ronde en équipe, mes rimes de merde sont jazz pratique. Port d'armes, lourde est ma thune, lourde est ma plume. Quand elle se calcule, au gramme de plomb les MC Jacques de plus. Port d'armes, roue elliptique, groove électrique. On ronde en équipe, mes rimes de merde sont jazz pratique. Port d'armes, lourde est ma thune, lourde est ma plume. Quand elle se calcule, au gramme de plomb les MC Jacques de plus. Avec mes frères en accolade, je connais les connards, fais un collage, je déconne, je dégomme, c'est comme un décollage. Mais comment, je dégomme mes potos, tu connais mes collègues en colère, cono. Depuis trop tôt, qui se calme depuis le collège, des gommets. Faut cabrer les soulex, faut gratter la cigue, un silex. Assis la suite, c'est le signe du silence. Prends un Kleenex, tu vois que ça défonce, qui fait le fond. C'est fou ce que t'as fait, ce que je fais, fais le feu. Veux clal à la foule, et fou les boules à ceux qui ne fouillent, qui bouffent les queues. Moi, ça, mes cœurs, je suis cané. Bientôt je suis Kenny, j'ai filé mon corps au kiné. Il m'a dit c'est toi qui as tué Kenny. Alors je suis cané, mais calé, collé sur canapé calu. Je fais pas le canard en cas de calage, connard, t'es cané dans le grabuche.
Hop, arrête, c'est quoi que tu dis là? T'es malade ou quoi toi?
Vas-y, attends, laisse tourner.
Ah, mais non, vas-y, je coupe là, c'est pas possible.
Coupe l'enregistrement, vas-y, laisse tourner vite fait, ouais.
Mais vois la gueule des rimes quand tes ni queue ni tête. Non, triple, j'y traite. J'irai très loin même sans peu de niquette. Scandale. Vu comme je me ken, j'aurai le crâne grave de Vandame. Seul dans ma putain peau d'âne. Port d'armes, roue elliptique, groove électrique. On ronde en équipe, mes rimes de merde sont jazz pratique. Port d'armes, lourde est ma thune, lourde est ma plume. Quand elle se calcule, au gramme de plomb, les MC Jacques de plus. Port d'armes, roue elliptique, groove électrique. On ronde en équipe, mes rimes de merde sont jazz pratique. Port d'armes, lourde est ma thune, lourde est ma plume. Quand elle se calcule, au gramme de plomb. On est MC Jacques de plus.
Pose tes gants box avec les mots. Révise tes phrases ou finis dans les cordes. Le fond de ma plume, il met la forme. Voilà mon équipe, mon équipe. Sois à l'écoute, c'est pas juste un écho. Pose tes gants box avec les mots. Révise tes phrases ou finis dans les cordes. Le fond de ma plume, il met la forme. Voilà mon équipe, mon équipe. Sois à l'écoute, c'est pas juste un écho.
Migration. Gageons que la question sera abordée avec tous les signes extérieurs des meilleurs sentiments, car on sait quels avantages corollaires du néocolonialisme elle présente. Ces migrations qui offrent une main-d'œuvre indispensable, qui sera payée à vil prix ou pas payée du tout, et qui fait automatiquement baisser les salaires dans cette Europe si hostile de plus en plus. Et la question de la défense, qui va être probablement un des domaines les plus importants abordés. Eh bien, on aura là la réunion de tout le gratin en matière d'industrie de l'armement. Tous ces invités qui seront là pour gérer la prospérité sélective des dominants et la maîtrise des peuples. Tous ces invités qui vont se renseigner, qui vont en quelque sorte visiter le marché, le salon de l'armement, qui n'ose pas dire son nom, mais c'est bien ce qu'il va présenter, on va se proposer les dernières technologies de maintien de l'ordre, les derniers accessoires, les derniers gaz, les dernières grenades, high-tech et autres joujoux qui équipent ce qu'on appelle, depuis la guerre d'Algérie, l'école française. À ce sujet, on peut consulter le livre de Marie-Monique Robin, qui a reçu pour cela le prix Albert Londres, excusez du peu. Ce livre terrible s'appelle « Les escadrons de la mort », donc l'école française, et il est paru à la Découverte il y a quelques années. Marie-Monique Robin n'est pas seulement une joyeuse écolo babacool, doublée d'une magnifique cinéaste. C'est aussi une gigantesque et très, très courageuse journaliste. Et cette réunion de Biarritz me fait penser au livre qui a reçu le Goncourt 2017, L'ordre du jour d'Éric Vuillard, qui nous présentait justement la réunion de tous les industriels qui avaient financé le parti nazi. Je vous avais fait une émission à ce sujet. Voilà. Je pense que nous reparlerons de cette réunion des grands et de leurs petits esprits mesquins et ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont nous proposer pour l'avenir. En attendant, on va pouvoir rêver de la rentrée et de nos actions pour la rentrée, pour notre avenir. Je vais, après une petite pause, je vais vous présenter des documents que j'ai un peu mis au goût du jour et de l'actualité et qui présentent des thèmes imprévus et, à mon avis, très intéressant.
Come the time in every man's life that he has an urge to settle down, get married to someone, be sorry later. That's the price we have to pay. Every mind born of God has but a few days and they're all filled with troubles. This is my mistake in life. I believe I'm married. Being a rambler, this is my last trip for running around. Lord, I wonder, does she ever call my name? Lord, I wonder if she ever called my name. She don't love me no more. People, ain't that a crying shame? They tell me marriage is a sweet life. Lord, I believe I try myself. Tell me marriage is a sweet life. Well, I believe I'll try myself. But if I can't get the girl I love, why take a chance with anyone else?
with my head bending down and tears falling on my knees.
Voilà. Maintenant, je vais donc vous lire des extraits de plusieurs textes, de plusieurs allocutions faites par un très grand militant. Bon, ben, je vais commencer tout de suite. Nous n'allons pas utiliser cette tribune pour nous en prendre à l'impérialisme, au libéralisme, au capitalisme. Ce n'est pas en criant ni en proférant des injures contre le capitalisme et l'impérialisme que nous allons parvenir à sa liquidation. Notre ordre du jour comprend des thèmes dont l'importance et le relief sont indiscutables et à travers lesquels se détache une préoccupation dominante, la lutte. Nous observons cependant qu'un type de lutte fondamentale à nos yeux n'est pas mentionné de façon expresse dans ce programme de travail, bien que nous soyons certains qu'il est présent à l'esprit de ceux qui l'ont élaboré. Nous nous référons ici à la lutte contre nos propres faiblesses. Notre expérience nous enseigne que dans le cadre général de la lutte quotidienne, quelles que soient les difficultés créées par l'ennemi, cette lutte contre nous-mêmes est la plus difficile, aussi bien au moment présent que dans l'avenir de nos peuples. Cette lutte est l'expression des contradictions internes de la réalité économique, sociale et culturelle, et donc historique, de chacun dans notre pays. Nous sommes convaincus que toute révolution nationale ou sociale qui ne possède pas comme base fondamentale la connaissance de cette réalité risque fort d'être condamnée à l'insuccès, sinon carrément à l'échec. Nous savons en effet que le déroulement d'un phénomène, quel que soit son environnement, dépend principalement de ses caractéristiques internes. Nous savons aussi que sur le plan politique, même si la réalité des autres est plus belle et attrayante, notre propre réalité ne peut être transformée que par sa connaissance concrète, par nos efforts et par nos propres sacrifices. C'est dans l'intention de contribuer modestement à ce débat que nous présentons ici notre opinion sur les fondements et les objectifs de notre libération en rapport avec la structure sociale. Cette opinion nous est dictée par notre expérience dans la lutte et l'appréciation critique d'autres expériences. À ceux qui lui voient un caractère théorique, il nous faut rappeler que toute pratique engendre une théorie et que, s'il est vrai qu'une révolution peut échouer, même alimentée par des théories parfaitement conçues, personne n'a encore réalisé une révolution victorieuse sans théorie révolutionnaire. Alors ça, cette apostrophe sur l'auto-analyse et l'autocritique, même si ce terme a subi quelques avatars et critiques, justement, je trouve que c'est très précieux. Je vais aborder aussi la question de l'unité des mouvements et la lutte structurée. On va voir, eh bien, encore un Memphis Slim, si vous voulez bien. C'était Memphis Slim tout à l'heure et je le retrouve avec plaisir. Ça me dynamise et ça me rajeunit, figurez-vous. Oh là, bon.
others no more. That I would like to dedicate to all of the great blues singers, the late great blues singers. Three people that I think is responsible for the blues being where they are today. Of course, we all had the blues, but we didn't know it until the one and only Bessie Smith, Big Bill Brooms, and Leroy Carr told us what we had. My mama had them, and her mother had them, and people now I've got them too. Lord, 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 I've got something. Something you can't learn in school. That's why I know I was born with them. Because you can't learn the blues in school. Now when I'm sad and lonesome, or when I've got trouble, even when I'm happy, all of a sudden, I find myself just singing the blues, just singing the blues. That's why I know I was born with them, because you don't learn the blues in school. Bessie Smith, she had them. Big Bill, he had them. And Leroy Carr, he had them too. Lord, 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 feel so happy every time I hear them sing the blues. Because I know what they mean. And you can't learn the blues in school. No, you don't learn the blues in school.
Un des premiers principes de notre parti, c'est unité et lutte. Unité et lutte pour pouvoir étudier à fond ce que signifie ce principe, il nous faut bien savoir ce qu'est l'unité et ce qu'est la lutte. Qu'est-ce que l'unité ? Si on considère l'ensemble des personnes réunies dans cette salle, le camarade X est une unité, et ainsi de suite. Est-ce bien cette unité-là qu'il nous intéresse de considérer dans notre travail? Oui et non. Oui, dans la mesure où nous voulons transformer un ensemble variable de personnes dans un ensemble bien défini, en cherchant une voie. Et non, parce que nous ne pouvons oublier qu'à l'intérieur de cet ensemble cohabitent des éléments divers. Au contraire, le sens que nous donnons à notre principe d'unité est le suivant. Quelles que soient les différences existantes, il nous faut être un tout, un ensemble, pour atteindre un objectif donné. Prenons par exemple une équipe de football. Elle se compose de plusieurs individus, 11 personnes. Chacune d'entre elles a son travail concret à faire chaque fois que l'équipe joue. Des personnes différentes les unes des autres, des tempéraments différents, souvent une instruction différente, certains sachant peu de choses et d'autres étant par exemple docteurs ou ingénieurs. Certains ayant des religions différentes, certains sont musulmans, d'autres catholiques. Ils peuvent même être politiquement différents d'un parti ou d'un autre. L'un peut appartenir au pouvoir en place et l'autre à l'opposition. Donc, des personnes différentes les unes des autres, chacune se considérant différente de l'autre, mais appartenant à la même équipe de football. Et si cette équipe ne réussissait pas à faire son unité au moment de jouer, elle ne serait jamais une équipe de football. Chacun peut conserver sa personnalité, ses idées, sa religion, ses problèmes personnels, même son style de jeu. Mais ils doivent tous obéir à une chose. Ils doivent agir ensemble pour marquer des buts contre l'adversaire, c'est-à-dire autour de cet objectif concret, marquer le maximum de buts. Ils doivent former une unité. S'ils ne la formaient pas, ça ne serait pas une équipe de foot. Ça serait rien du tout. Tout ceci pour donner aux camarades une idée de ce qu'est l'unité. Et pour leur dire que c'est dans la différence entre les choses que réside le fondement principal de l'unité. Si elle ne différait pas, il n'y aurait pas besoin d'unité. Il n'y aurait pas de problème d'unité. À présent, pour nous, que représente l'unité? Quel est l'objectif autour duquel nous devons faire l'unité? Bien sûr, nous ne sommes pas une équipe de football. Nous sommes un peuple ou des membres d'un peuple qui, à un certain moment de leur histoire, ont pris une certaine direction. Se sont posés certains problèmes dans leur esprit et dans la vie, ont orienté leur action dans une certaine direction, ont soulevé certaines questions et ont cherché des réponses. Tout a commencé par une personne seule, puis deux et trois et six. À un certain moment, le problème est apparu dans notre milieu, ce problème, celui de l'unité. Et le mouvement s'est montré avisé, c'est-à-dire qu'il l'a bien compris, il a adopté dans sa propre devise comme principe essentiel unité et lutte. Une question maintenant se pose à nous, cette unité qui surgit comme une nécessité, a-t-elle existé parce que nos idées politiques étaient différentes? Non, car nous n'avions pas l'habitude de faire de la politique dans notre pays.
Face à la répression policière, judiciaire et carcérale, il est temps de riposter.
Dégommons la répression!
Du 6 au 7 juillet à Toulouse, venez pour un week-end de rencontres,
discussions, ateliers, cantines, apéros,
pour une pratique collective de défense contre la répression.
Retrouvez le programme détaillé sur défensecollectivetoulouse.noblogs.org.
Quel était alors le problème de l'unité dans notre pays? Le problème n'en était que plus simple en premier lieu, comme chacun le sait, l'union fait la force. À partir du moment où il est venu à l'idée de quelques enfants de notre pays de mettre fin à la domination financière, il s'est posé un problème de force, une force nécessaire pour les gouvernants, pour affronter les gouvernants, pour affronter les financiers. Par conséquent, plus nous rassemblerons de gens, plus nous serons unis et plus nous correspondrons à ce principe que tout le monde connaît, l'union fait la force. Si je prends une allumette et que je veux la casser, je la casse rapidement. Si j'en mets deux ensemble, ça n'est plus aussi facile. Et trois, quatre ou cinq ou six, il viendra un moment où il sera impossible de casser l'ensemble des allumettes à la fois. Mais mis à part ce cas simple et naturel où l'union fait la force, nous devons respecter ce principe. D'autres problèmes divisent les gens. Par exemple, quelques familles possèdent des terres ou des biens et d'autres n'en ont pas. Si tout le monde en avait ou si personne n'en avait, ça serait plus simple. L'ennemi, par exemple, force qui nous est contraire et dont nous voulons nous libérer, peut mettre de son côté ceux qui ont des biens, des fortunes, contre nous tous, et les entretenir dans l'idée que nous voulons la leur dérober. Ça veut dire que le problème de l'unité apparaît parmi nous. Je le répète, par le fait de devoir réunir des gens qui n'ont pas de pensée politique forcément différente, mais qui ont une situation économique différente. Ça veut dire que nous posons le problème de l'unité dans le sens de priver l'ennemi de la possibilité d'exploiter les contradictions qu'il peut y avoir entre nous, afin d'affaiblir la force que nous devons opposer à la sienne. Ça veut dire donc que nous posons le problème de l'unité dans notre pays dans le sens de priver l'adversaire, de priver l'ennemi de la possibilité d'exploiter les contradictions qu'il peut y avoir entre nous, afin d'affaiblir la force que nous devons opposer à la sienne. Stratégie. Si nous voulons faire une réunion dans cette salle, nous devons convoquer des gens, disposer les tables dans la salle. Nous devons prendre les moyens de faire une réunion telle qu'elle doit l'être. L'unité aussi est un moyen et non une fin. Si nous réalisons l'unité, cela ne veut pas dire que la lutte se termine. L'unité est un moyen pour lutter, et comme tous les moyens, il suffit d'une certaine quantité. Il n'est pas nécessaire, pour lutter dans un pays, d'unir tout le monde. Avons-nous la certitude que tout le monde est uni? Non. Il suffit d'atteindre un certain degré d'unité. Si nous en arrivons là, alors nous pouvons lutter. Parce que désormais, les idées qui sont dans l'esprit des gens avancent, se développent et servent chaque jour davantage à réaliser l'objectif à atteindre. Et qu'est-ce que la lutte? La lutte, c'est une condition normale de tous les êtres vivants. Tout le monde est en lutte. Tous nous luttons. Il y a toujours une force contraire qui nous est propre, contre laquelle nous devons lutter. La vie est une lutte perpétuelle. Mais attention au gaspillage d'énergie, misère, souffrance, mort, maladie, malheur, en plus de toutes les autres conséquences à caractère social. Le problème est de savoir dans la pratique si cette force unie de notre peuple peut vaincre la force financière. C'est ça notre lutte. Prise ensemble, unité et lutte signifie que pour lutter, il faut l'unité, mais que pour atteindre l'unité, il faut aussi lutter. Et ça signifie que même entre nous, nous luttons. Peut-être les camarades ne l'ont-ils pas bien compris. Par rapport à nous-mêmes, nous luttons. L'unité et la lutte, l'unité pour lutter contre la finance et la lutte pour réaliser notre unité, pour construire notre pays comme il doit l'être. Ça veut dire que pour lutter contre l'ennemi, il faut que toutes les forces susceptibles de s'unir nous rejoignent. Mais ceci ne se fait pas à l'aveuglette. Nous devons savoir la situation de chacun, par rapport aux financiers, par rapport aux profiteurs. Alors, dans les villes, on pourra vérifier les hypothèses suivantes. Les bourgeois susceptibles d'agir contre les financiers sont très peu nombreux. Premièrement, parce qu'ils sont de la classe dominante et qu'ils sont les vrais représentants du pouvoir dans notre pays. Deuxièmement, parce que certains n'y sont pas disposés, parce que leur vie, ils veulent en faire beaucoup d'argent, et enfin, parce que quelques bourgeois n'ont pas une formation politique suffisante pour prendre une attitude d'opposition ouverte contre n'importe quel régime. Et nous ? Parmi les groupes que nous pouvons appeler petits bourgeois, c'est-à-dire les gens qui ont une vie sûre, il apparaît trois types de personnes. Un petit groupe, mais fort et favorable au pouvoir. Un groupe de gens qui ne veulent même pas entendre parler de lutte. Ce sont ces personnes-là qui sont venues nous voir comme des gens de la haute, ayant une bonne situation, mangeant bien, buvant bien, allant en vacances, et qui nous disent « Nous voulons parler avec toi, toi, fils de un tel, nous te connaissons bien, tu crées des problèmes, tu vas gâcher ta carrière d'ingénieur, nous voulons te donner des conseils, parce que nous n'avons pas à lutter contre le pouvoir, nous sommes tous avec le pouvoir. » Ah ben cela, il n'y a pas de solution, hein, c'est pas la peine de perdre notre temps. Il y a aussi une grande majorité de petits bourgeois qui restent indécises. Elle était et est certainement encore aujourd'hui indécise. Elle pense, quant à elle, celui-là, il vient avec ses histoires et tous ses copains. Oui, bien sûr, ça serait pas mal de mettre le gouvernement à la porte. Mais les héritiers, les profiteurs, vous voyez, ceux-là, même s'ils ne valent rien, ils montent et deviennent de grands personnages. Alors, cette majorité de petits bourgeois qui voient d'un côté et qui voient de l'autre un spectacle qui la déroute, ils vont être difficiles à convaincre. Si vous remarquez bien, la majorité des gens qui ont créé les partis n'ont pas souvent payé d'impôts et n'ont pas reçu de coûts, mais ils n'ont jamais manqué de travail. Quant à nos travailleurs salariés, la majorité est favorable à la lutte, tout au moins au début. La majorité, les charpentiers, les maçons, les marins, les mécaniciens, les chauffeurs, ressentaient durement l'exploitation. Leur salaire était misérable. Quand un homme qui travaille comme maçon gagne difficilement 1 000 euros par mois, alors qu'un député en touche 8 ou 10 000, pour ne pas dire plus, il se sent surexploité du fait de ses conditions de travail. Mais dans ce groupe, il y a aussi des gens qui ne veulent pas lutter et qui restent favorables au système. Etc., etc. Mais je vous avoue que ce texte est celui d'un grand révolutionnaire africain, Amilcar Cabral, dont je voulais vous parler plus tard. Et puis, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est la recette d'organisation d'un parti politique et surtout, surtout, d'une révolution. Et devinez à quoi ça m'a fait penser. Évidemment aux gilets jaunes. Alors, je sais bien que je vous ai lu ça en balbutiant un peu parce qu'il a fallu que je corrige des textes. Chaque fois qu'il y avait marqué colonialiste, eh ben, j'ai transformé ça par financier. Mais ce texte est très riche. Il est très simple aussi. Il est très convaincant. Il est basique. Et c'est justement de quoi les gens qui se révoltent sans avoir, comme l'a précisé Amilcar Cabral, sans avoir eu d'expérience politique, c'est justement de quoi ils ont besoin. C'est de ce raisonnement dont ils ont besoin. Vous retrouverez donc ce texte d'Amilcar Cabral que j'ai, comme on dit, trafiqué. Nous reparlerons beaucoup d'Amilcar Cabral parce que c'était quelqu'un de passionné, de complètement honnête, et c'est quelqu'un comme Sankara qui a évidemment payé sa lutte et son succès par sa vie. Hein, il a été assassiné dans les mêmes conditions que Thomas Sankara. Nous en reparlerons donc bientôt à la rentrée, enfin à ma rentrée, hein, parce que ma rentrée, ça sera en octobre. Hein. Je vais faire l'émission mercredi prochain et puis je m'arrêterai parce que j'en ai grand besoin, puis j'ai peut-être droit aussi hein, quand même. Voilà, donc au mois de septembre, vous aurez des rediffusions et puis on se retrouvera en octobre avec plein de choses nouvelles. Je vous remercie de votre écoute et je pense qu'on se retrouvera au moins dans les manifestations le 1er septembre. Merci à vous et à bientôt.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Et puis...